Ayant su sauvegarder les valeurs morales et chrétiennes, nous n'avons pas cru un seul instant avoir le droit de suspecter les intentions, la sincérité qui étaient les vôtres quand au moment le plus tragique de notre histoire, vous aviez fait avec tant de simplicité don de votre personne à la France. Quoi de plus chrétien, mon cher maréchal, que votre programme ? Décentralisation, renaissance des provinces, accession du prolétariat à la propriété, organisation corporative et fraternelle du monde du travail, reconstitution de la vie familiale. Il n'y a pas de doute. Pourquoi s'est-on acharné sur votre personne ? Le cardinal Ségura nous en avait donné une réponse. C'est parce qu'il était catholique. Et que la foi inspirait ses actes, qu'il a été persécuté si cruellement jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Ses mérites sont grands, mais ils sont rendus plus grands encore par ses sentiments chrétiens. Et Monseigneur Lefebvre ajoutait avec justice, il avait pu déclarer que face à la doctrine d'ordre naturel, devant l'écroulement de toutes les valeurs de la civilisation chrétienne en France, vous êtes celui qui les a ressuscités. Avec vous, mon cher maréchal, nous étions certainement sur la voie d'un redressement, d'un sursaut spirituel. Vous jetiez les bases, peut-être même sans le savoir, d'un retour à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne vous en fîtes pas l'apôtre, mais vous prépariez un terrain. Un terrain que les catholiques auraient pu saisir si l'homme de Londres n'y avait mis l'entrave que nous savons. Il fallait sortir l'État de l'asservissement dans lequel il se trouvait par ses coalitions d'intérêts économiques ou ses équipes politiques ou syndicales qui prétendaient fallacieusement représenter la classe ouvrière. Vous prépariez donc les voies d'une remoralisation, d'une réorganisation du corps de l'État qu'une gangrène avait envahi, disiez-vous. Qu'une gangrène avait envahi en y introduisant la paresse et l'incompétence. Parfois même le sabotage systématique aux fins de désordre social ou de révolution internationale. Vous aviez pris alors le parti de réagir contre les malheurs de la patrie et vous les indiquiez, ces malheurs. Les malheurs de la patrie sont venus avant tout d'un individualisme excessif, d'une fausse conception de la liberté, d'un fléchissement de la conscience, remplaçant trop souvent le respect du devoir par la revendication des droits. Que de paroles d'actualité. Et c'est sur ces bases que vous aviez voulu refaire l'unité de la patrie, car, vous le disiez encore, c'est notre légèreté même qui est la cause de nos divisions. Au milieu des magnifiques réalisations de l'après-guerre, c'est l'âme du pays qui a le plus souffert parce qu'elle a désappris les pensées qui nous unissaient. Nul doute pour nous. Vous avez tenté de ressusciter au milieu d'un désastre effroyable toutes les valeurs spirituelles, morales et sociales conformément à la doctrine explicitée par le magistère de l'Église. Et de vos magnifiques messages, tout imprégnés de christianisme, émane la sagesse chrétienne, la lumière chrétienne, ce qui fit dire un jour au père Garrigou Lagrange, le maréchal Pétain comprend la vocation chrétienne de la France dans l'œuvre admirable de relèvement qu'il a entreprise sous une haute inspiration et avec un grand réalisme. Sans nul doute, la France d'hier vous a condamné parce que vous incarniez les vertus de la civilisation chrétienne et qu'elle n'en voulait plus. Elle l'avait déjà dit en 1789, elle ne voulait pas la voir ressusciter grâce à vous et à votre suite. Dans l'analyse du déclin de la nation, vous y trouviez donc comme première raison l'abandon de toute vie spirituelle dans le cadre de la nation. Ce sont vos propres termes. Remettons en honneur les forces spirituelles, disiez-vous. Quelles sont ces forces? Respect de l'autorité.
Respect de la discipline.
Goût du travail. Goût du travail bien fait, culte de l'art, sentiment du devoir. Ce sont ces vertus qui ont fait de tout temps la grandeur de la France. Raison première de notre déclin, donc, l'abandon de toute vie spirituelle. Principe qui va, vous le devinez bien, à l'encontre du matérialisme. Ces forces spirituelles, sans nul doute, étaient porteuses d'honnêteté, de respect, de courage, de probité, d'amour du beau. Elles formaient un idéal, un enthousiasme pour le bien et pour le beau contre l'horizon qui avait fait suite à la guerre de 14-18 et qui plongera notre pays dans le même horizon après 45. La matière, la misère et la mort. La machine qui remplacera les bras, annihilant l'esprit. Et vous vous étiez, mon cher maréchal, engagé à refaire la société sur de nouvelles bases, condition d'un relèvement de la France que notre démocratie française égalitariste ne voulait pas. Cette république démocratique qui, affirmiez-vous, avait fini dans l'impuissance de décider et même de délibérer. Un peuple, disiez-vous, est une hiérarchie de familles, de professions, de communes, de responsabilités administratives, de familles spirituelles articulées, fédérées pour former une patrie, animée d'un mouvement, d'un élan, d'un idéal moteur de l'avenir, pour produire à tous les échelons une hiérarchie. Des hommes qui se sélectionnent par les services rendus à la communauté, dont un petit nombre conseille, quelques-uns commandent, et qu'un chef au sommet gouverne. Voilà la société telle que vous vouliez nous offrir. Alors nous, comment nous, catholiques, nous n'aurions pas accueilli celui qui savait bien que chez nous la prospérité comme la victoire endort, celui qui savait bien que depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'avait emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué, disait-il, plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. Et s'il y a une notion qui nous est chère, si même elle nous paraît pénible, c'est bien celle du sacrifice. Car naissant chrétien, c'est de la croix que nous sommes marqués. C'est de la croix que nous sommes marqués et c'est par ce signe que nous vaincrons. On a tendu à un matérialisme individualiste. On a fait du progrès et de la science des dieux nouveaux. Et tout cela a constitué une révolution caractérisée par les principes de vie de la société chrétienne. Les principes du libéralisme ont fait de l'égoïsme particulier et de l'intérêt individuel la loi de la vie et la règle de la conduite. Notre défaite, disiez-vous, est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. Et c'est alors que, déclarant la guerre au matérialisme envahisseur, vous nous appeliez à un redressement intellectuel et moral. Vous appeliez les Français au réveil, empoisonnés qu'ils étaient, disiez-vous, par le matérialisme. Et vous l'avez fait en leur redonnant un idéal. Dans l'acceptation des servitudes ou du sacrifice auquel ils se vouaient par nature, écrivit un jour Maître Isorni, la foi l'avait aidé à la fin de sa vie. Mais il n'en parlait jamais, soucieux qu'on ignorât qu'il lui advenait de réclamer son refuge à la communion. Bien plus que celui des hommes, le jugement de Dieu le préoccupait. Et on vous a condamné, mon cher maréchal, parce que vous préconisiez l'esprit de sacrifice, l'effort, le don et la maîtrise de soi. Parce que vous aviez redonné un sens chrétien au travail, remis la famille à l'honneur, exalté l'amour de la patrie. Parce que vous cherchiez à communiquer, vous cherchiez à nous communiquer la force des grandes certitudes et que vous étiez le dernier rempart de la civilisation chrétienne. Il est certain que derrière votre condamnation se sont cachées toutes les combinaisons qui ont fait le malheur de notre pays. Mais vous avez accepté l'offrande. Et comme tout don passe par la croix vous a attendu et vous a suivi jusqu'ici. Et si l'échec reste au plan humain, la victoire est là, sur le plan surnaturel. Eh bien, puisse le monde aujourd'hui retenir votre critique de l'individualisme contre les fausses maximes de l'égoïsme politique, social, moral et spirituel, individualisme destructeur de la famille dont il brise et relâche les liens, individualisme destructeur du travail, à l'encontre duquel il proclame ce monde matérialiste, le droit à la paresse, destructeur de la patrie dont il ébranle la cohésion quand il ne dissout pas l'unité. Nous savons qu'il était impossible de relever un pays qui ne trouverait chez lui qu'égoïsme, sécheresse de cœur et indifférence. Comment n'aurions-nous pas accueilli avec enthousiasme aussi cette formule « travail, famille, patrie » basée sur des principes naturels, certes, peut-être insuffisants, mais néanmoins qui pouvaient être précurseurs de plus et de mieux. Elle était meilleure en tout cas, cette trilogie, que celle que nos politiciens essaient de trouver en partant des principes contre nature. Elle était en tout cas bien éloignée des principes révolutionnaires et des formules totalitaires. Mon cher maréchal, vous aviez osé toucher à la trilogie révolutionnaire, née dans la haine et dans le sang, née dans la révolte contre Dieu. Et cela, on ne vous l'a jamais pardonné. Mais malgré cela, vous nous invitiez encore à lever les yeux vers le ciel pour y placer nos espérances. Votre crime était-il alors d'avoir aimé la France plus que la République ? Comment n'aurions-nous pas applaudi aux institutions propres à développer la natalité, à protéger la famille, institutions que vous aviez favorisées de tout votre pouvoir ? Comment ne pas saluer votre charte du travail ? Saluée elle-même publiquement par l'épiscopat français comme trop conforme à la doctrine sociale de l'Église pour ne pas rallier les suffrages de tous les catholiques. Développement de l'artisanat, organisation corporative du travail, moyen que vous avez mis en œuvre pour combattre la lutte des classes qui ne voyait qu'opposition entre patronat et prolétariat, un prolétariat livré aux bandes marxistes. Eh bien, pour y remédier, vous aviez recréé dans une communauté de travail les conditions d'une vie digne, des raisons de vivre et d'espérer. Et cette communauté, c'était l'entreprise. Et vous tendiez alors de tous vos efforts à doter la France d'une organisation économique fondée sur un régime corporatif, souple, harmonieux, juste. Et c'est aussi dans le nouvel essor de l'artisanat que vous espériez avec raison instaurer ce climat de charité où le patron travaille avec ses ouvriers et à côté de lui, se connaissant l'un l'autre, ayant souvent les mêmes joies, les mêmes peines, arrivant par là à s'estimer. Il n'y a pas de lutte de classe possible, affirmiez-vous, dans l'atelier artisanal. On y apprend le sens du beau et du travail bien fait, autrement dit, ce que saint Thomas appelait la vertu d'excellence. C'est en tant que catholique aussi que nous avons accueilli votre doctrine quand vous avez vu dans le retour aux vertus paysannes les conditions de la paix sociale. C'est le paysan qui a forgé la France, disiez-vous, par son héroïque patience. C'est lui aussi qui assure son équilibre économique et spirituel. Les forces morales marquent le cœur du paysan d'une empreinte d'autant plus forte qu'il l'épuise à même. Qu'il épuise à même le sol de la patrie. Et vous citiez, cher maréchal, plusieurs vertus du paysan, vertus qui constituent comme un terreau propre à faciliter l'exercice des vertus surnaturelles, l'obstination dans l'effort quotidien, l'abandon à la providence, la résistance physique, une prudence faite de prévisions à longue échéance, de décisions lentement mûries, la confiance raisonnée, le goût d'une vie rude et simple. C'est en tant que catholique aussi que nous accueillons, mon cher maréchal, votre révolution nationale, dont le fondement spirituel était à l'inverse du totalitarisme païen. C'était là, au dire de Mgr Piguet, évêque de Clermont-Ferrand à l'époque, une œuvre courageuse et magnifique de renouveau, qui vous a fait acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale. Il est bien évident, mon cher maréchal, que vous aviez à l'époque sous les yeux encore la guerre d'Espagne de 1936. Il fallait à la France un ordre nouveau, sous peine de la voir sombrer dans les mêmes atrocités engendrées par la haine marxiste, ce qui, hélas, advint quelques années plus tard, en 1945, sous l'épuration. Si la France, disiez-vous, le 12 août 1941, si la France ne comprenait pas qu'elle est condamnée par la force des choses à changer de régime, elle verrait s'ouvrir devant elle l'abîme où l'Espagne de 1936 a failli disparaître et dont elle ne s'est sauvée que par la foi, la jeunesse et le sacrifice. Et cet ordre nouveau que vous désiriez de toute votre âme jeter les bases de ce que vous appelez la révolution nationale, dont le sens n'était pas, comme toute révolution, le bouleversement de l'ordre, mais une volonté de renaître. Une résolution ardente de rassembler tous les éléments sains du passé, du présent, pour recomposer l'âme nationale dissoute par les discordes des partis